Livre 5. La mer et le sort remuent sous le même souffle. Chapitre 1. Solidité des choses fragiles. La destinée nous tend parfois un verre de folie à boire. Une main sort du nuage et nous offre brusquement la coupe sombre où est l'ivresse inconnue. Gwynplaine ne comprit pas. Il regarda derrière lui pour voir à qui l'on parlait. Le son trop aigu n'est plus perceptible à l'oreille. L'émotion trop aiguë n'est plus perceptible à l'intelligence. Il y a une limite pour comprendre, comme pour entendre. Le wapentake et le justicier quorum s'approchèrent de Gwynplaine et le prirent sous le bras. Et il sentit qu'on l'asseyait dans le fauteuil d'où le shérif s'était levé. Il se laissa faire, sans s'expliquer comment cela se pouvait. Quand Gwynplaine fut assis, le justicier quorum et le wapentake reculèrent de quelques pas et se tinrent droits et immobiles en arrière du fauteuil. Alors, le shérif posa son bouquet de roses sur la dalle, mit des lunettes que lui présenta le greffier, tira de dessous les dossiers qui encombraient la table une feuille de parchemin tachée, jaunie, verdie, rongée et cassée par places, qui semblait avoir été pliée à plis très étroits et dont un côté était couvert d'écriture. Et, debout sous la lumière de la lanterne, rapprochant de ses yeux cette feuille, de sa voix la plus solennelle, il lut ceci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce jour-là, 29e de janvier 1690 de notre Seigneur, a été méchamment abandonné sur la côte déserte de Portland dans l'intention de l'y laisser périr de faim, de froid et de solitude, un enfant âgé de 10 ans. Cet enfant a été vendu à l'âge de 2 ans par ordre de sa très gracieuse majesté, le roi Jacques IIe. Cet enfant est Lord Fermain Clancharlie, fils légitime unique de Lord Linnaeus Clancharlie, baron Clancharlie et Uncarville, marquis de Corleone en Italie, père du royaume d'Angleterre, défunt. Et Dan Branshaw, son épouse, défunte. Cet enfant est héritier des biens et titres de son père. C'est pourquoi il a été vendu, mutilé, défiguré et disparu par la volonté de sa très gracieuse majesté. Cet enfant a été élevé et dressé pour être bateleur dans les marchés et foires. Il a été vendu à l'âge de 2 ans après la mort du seigneur son père et 10 livres sterling ont été donnés au roi pour l'achat de cet enfant, ainsi que pour diverses concessions, tolérances et immunités. Lord Fermain Clancharlie, âgé de 2 ans, a été acheté par moi sous signé qui écrit ces lignes et mutilé et défiguré par un flamand de Flandre nommé Hardquanonne, lequel est seul en possession des secrets et procédés du docteur Conquest. L'enfant était destiné par nous à être un masque de rire, masque à ridens. À cette intention, Hardquanonne lui a pratiqué l'opération Bucca fissa usque adores, qui met sur la face un rire éternel. L'enfant, par un moyen connu de Hardquanonne seul, insensible pendant ce travail, ignore l'opération qu'il a subie. Il ignore qu'il est Lord Clancharlie. Il répond au nom de Gwynplaine. Cela tient à la bassesse de l'âge et à la petitesse de mémoire qu'il avait quand il a été vendu et acheté, étant à peine âgé de 2 ans. Hardquanonne est le seul qui sache faire l'opération Bucca fissa, et cet enfant est le seul vivant à qui elle ait été faite. Cette opération est unique et singulière, à ce point que même après de longues années, cet enfant, fût-il un vieillard au lieu d'être un enfant, et ses cheveux noirs fussent-ils devenus des cheveux blancs, serait immédiatement reconnu par Hardquanonne. À l'heure où nous écrivons ceci, Hardquanonne, lequel sait pertinemment tous ces faits et y a participé comme auteur principal, est détenu dans les prisons de Son Altesse le Prince d'Orange, vulgairement appelé le roi Guillaume III. Hardquanonne a été appréhendé et saisi comme étant de ceux dits les Comprachicos ou Chelas. Il est enfermé dans le donjon de Chatham. C'est en Suisse, près du lac de Genève, entre Lausanne et Vevey, dans la maison même où son père et sa mère étaient morts, que l'enfant nous a été conformément au commandement du roi, vendu et livré par le dernier domestique du feu Lord Linnaeus, lequel domestique a trépassé peu après comme ses maîtres. De sorte que cette affaire délicate et secrète n'est plus connue à cette heure de personne ici-bas, si ce n'est de Hardquanonne, qui est au cachot dans Chatham, et de nous, qui allons mourir. Nous, sous-signés, avons élevé et gardé 8 ans, pour en tirer parti dans notre industrie, le petit seigneur acheté par nous au roi. Ce jour-lui, fuyant l'Angleterre pour ne point partager le mauvais sort de Hardquanonne, nous avons, par timidité et crainte, à cause des inhibitions et fulminations pénales édictées en Parlement, abandonné, à la nuit tombante, sur la côte de Portland, le dit enfant Gwynplaine, qui est Lord Fermain Clancharlie. Or, avons juré le secret au roi, mais pas à Dieu. Cette nuit, en mer, assaillie d'une sévère tempête par la volonté de la Providence, en plein désespoir et détresse, agenouillés devant celui qui peut sauver nos vies et qui voudra peut-être sauver nos âmes, n'ayant plus rien à attendre des hommes et tout à craindre de Dieu, ayant pour ancre et ressource le repentir de nos actions mauvaises, résignés à mourir et contents si la justice d'en haut se satisfait, humbles et pénitents et nous frappant la poitrine, faisons cette déclaration et la confions et remettons à la mère furieuse pour qu'elle en use selon le bien à l'obéissance de Dieu et que la très sainte Vierge nous soit en aide. Ainsi soit-il. Et avons signé. Le shérif, s'interrompant, dit « Voici les signatures, toutes d'écritures diverses. » Et il se remit à lire. Docteur Gernadus Gestemund, Asuncion, une croix. Et côté, Barbara Fermois, de l'île Tirif, dans les Ébudes. Gaïs Dora, Captal, John Girat, Jacques XIV, dit le Narbonnais. Luc Pierre Capgaroup, du bagne de Mahon. Le shérif, s'arrêtant encore, dit note écrite de la même main que le texte et que la première signature. Et il lut. De 3 hommes d'équipage, le patron ayant été enlevé par un coup de mer, il ne reste que 2, et ont signé Galdéazin, Ave Maria, voleur. Le shérif, mêlant la lecture et les interruptions, continua. Au bas de la feuille est écrit en mer, à bord de la Matutina, ourque de Biscaye, du golfe de Pasage. Cette feuille, ajouta le shérif, est un parchemin de chancellerie qui porte le filigrane du roi Jacques IIe. En marge de la déclaration et de la même écriture, il y a cette note. La présente déclaration est écrite par nous au verso de l'ordre royal qui nous a été remis pour notre décharge d'avoir acheté l'enfant. Qu'on retourne la feuille, on verra l'ordre. Le shérif retourna le parchemin et l'éleva dans sa main droite en l'exposant à la lumière. On vit une page blanche, si le mot page blanche peut s'appliquer à une telle moisissure. Et au milieu de la page, 3 mots écrits, 2 mots latins, Jussu Regis, et une signature, Jeffouez. Jussu Regis, Jeffouez, dit le shérif, passant de la voix grave à la voix haute. Un homme, à qui il vient de tomber sur la tête une tuile du palais des rêves, c'était là, Gwynplaine. Il se mit à parler comme on parle dans l'inconscience. Gernardus, oui, le docteur. Un homme vieux et triste. J'en avais peur. Geysdora, Captal, cela veut dire le chef. Il y avait des femmes. Asuncion et l'autre. Et puis le Provençal, c'était Capgaroup. Il buvait dans une bouteille plate sur laquelle il y avait un nom écrit en rouge. La voici, dit le shérif. Et il posa sur la table une chose que le greffier venait de tirer du sac de justice. C'était une gourde à oreillons revêtue d'osier. Cette bouteille avait visiblement eu des aventures. Elle avait dû séjourner dans l'eau. Des coquillages et des conserves y adhéraient. Elle était incrustée et damasquinée de toutes les rouilles de l'océan. Le goulot avait un collet de goudron indiquant qu'elle avait été hermétiquement bouchée. Elle était décachetée et ouverte. On avait toutefois replacé dans le goulot une sorte de tampon de funin goudronné qui avait été le bouchon. « C'est dans cette bouteille, dit le shérif, qui avait été enfermée par les gens qui allaient mourir, la déclaration dont il vient d'être donné lecture. Ce message adressé à la justice lui a été fidèlement remis par la mère. » Le shérif augmenta la majesté de son intonation et continua. De même que la montagne Hao est excellente au blé et fournit la fine fleur de farine dont on cuit le pain pour la table royale, de même, la mère rend à l'Angleterre tous les services qu'elle peut. Et quand un lord se perd, elle le retrouve et le rapporte. Puis il reprit. Sur cette gourde, il y a en effet un nom écrit en rouge. En haussant la voix, il se tourna vers le patient immobile. Votre nom à vous, malfaiteur qui êtes ici. Car telles sont les voies obscures par où la vérité, engloutie dans le gouffre des actions humaines, arrive du fond à la surface. Le shérif prit la gourde et présenta à la lumière un des côtés de l'épave qui avait été nettoyé, probablement pour les besoins de la justice. On y voyait serpenter dans les entrelacements de l'osier un mince ruban de jonc rouge, devenu noir par endroits, travail de l'eau et du temps. Ce jonc, malgré quelques cassures, traçait distinctement dans l'osier ses 12 lettres. Ad qua non. Alors, le shérif, reprenant ce son de voix particulier qui ne ressemble à rien et qu'on pourrait qualifier l'accent de justice, se tourna vers le patient. Ad qua non. Quand, par nous, shérif, cette gourde sur laquelle est votre nom vous a été pour la première fois montrée, exhibée et présentée, vous l'avez tout d'abord et de bonne grâce reconnue comme vous ayant appartenu. Puis, lecture vous ayant été faite, en sa teneur, du parchemin qui y était ployé et enfermé, vous n'avez pas voulu en dire davantage. Et dans l'espoir sans doute que l'enfant perdu ne serait pas retrouvé, et que vous échapperiez au châtiment, vous avez refusé de répondre. À la suite duquel refus, vous avez été appliqué à la peine forte et dure. Et deuxième lecture du dit parchemin, où est consignée la déclaration et confession de vos complices, vous a été donnée. Inutilement. Aujourd'hui, qui est le jour quatrième et le jour légalement voulu de la confrontation, ayant été mis en présence de celui qui a été abandonné à Portland, le 29 janvier 1690, l'espérance diabolique s'est évanouie en vous, et vous avez rompu le silence et reconnu votre victime. Le patient ouvrit les yeux. dressa la tête et d'une voix où il y avait la sonorité étrange de l'agonie, avec on ne sait quel calme mêlé à son râle, prononçant tragiquement sous cet amas de pierres des mots pour chacun desquels il lui fallait soulever l'espèce de couvercle de tombe posé sur lui, il se mit à parler. « J'ai juré le secret, et je l'ai gardé le plus que j'ai pu. Les hommes sombres sont les hommes fidèles, et il existe une honnêteté dans l'enfer. Aujourd'hui, le silence est devenu inutile, soit, c'est pourquoi je parle. Eh bien, oui, c'est lui, nous l'avons fait à nous deux, le roi par sa volonté, moi par mon art. » Et, regardant Gwynplaine, il ajouta, « Maintenant, ris à jamais !» Et lui-même, il se mit à rire. Ce second rire, plus farouche encore que le premier, aurait pu être pris pour un sanglot. Le rire cessa, et l'homme se recoucha. Ses paupières se refermèrent. Le shérif, qui avait laissé la parole au supplicié, poursuivit. De tout quoi il est pris acte. Il donna au greffier le temps d'écrire, puis il dit « Ad quanon, au terme de la loi, après confrontation suivie des faits, après troisième lecture de la déclaration de vos complices, désormais confirmée par votre reconnaissance et confession, après votre aveu itératif, vous allez être dégagé de ces entraves et remis au bon plaisir de Sa Majesté pour être pendu comme plagiaire. » Plagiaire, fit le sergent de la coiffe, c'est-à-dire acheteur et vendeur d'enfants. Loi Visigoth, livre 7, titre 3, paragraphe usurpaverit, et loi Salique, titre 41, paragraphe 2, et loi des Frisons, titre 21, de Plagio et Alexandre Nequam, dit Qui pueros vendis plagiarius et tibi nomen. Toi qui vends des enfants, ton nom est plagiaire. Le shérif posa le parchemin sur la table, ôta ses lunettes, ressaisit le bouquet et dit « Fin de la peine forte et dure. Ad quanon, remerciez Sa Majesté. » D'un signe, le justicier Quorum mit en mouvement l'homme habillé de cuir. Cet homme, qui était un valet de bourreau, « Groom du gibet, disent les vieilles chartes, alla au patient. Lui ôta, l'une après l'autre, les pierres qu'il avait sur le ventre, enleva la plaque de fer qui laissa voir les côtes déformées du misérable, puis lui défit des poignets et des chevilles les quatre carcans qui le liaient au pilier. Le patient, déchargé des pierres et délivré des chaînes, resta plat sur la terre, les yeux fermés, les bras et les jambes écartés, comme un crucifié décloué. « Ad quanon, dit le shérif, « levez-vous !» Le patient ne remua point. Le groom du gibet lui prit une main et la lâcha. La main retomba. L'autre main, soulevée, retomba de même. Le valet de bourreau saisit un pied, puis l'autre. Les talons revinrent frapper le sol. Les doigts restèrent inertes et les orteils immobiles. Les pieds nus d'un corps gisant ont on ne sait quoi de hérissé. Le médecin s'approcha, tira d'une poche de sa robe un petit miroir d'acier et le mit devant la bouche béante de Ad quanon. Puis du doigt il lui ouvrit les paupières. Elles ne s'abaissèrent point. Les prunelles vitreuses demeurèrent fixes. Le médecin se redressa et dit « Il est mort. » Et il ajouta « Il a ri, cela l'a tué. » « Peu importe, dit le shérif, après l'aveu, vivre ou mourir n'est plus qu'une formalité. » Puis, désignant Ad quanon d'un geste de son bouquet de roses, le shérif jeta cet ordre au wapentake. Carcasse à emporter d'ici cette nuit. Le wapentek adhéra d'un hochement de tête. Et le shérif ajouta « Le cimetière de la prison est en face. » Le wapentek fit un nouveau signe d'adhésion. Le greffier écrivait. Le shérif, ayant dans sa main gauche le bouquet, prit dans l'autre main sa baguette blanche, se plaça droit devant Gwynplaine, toujours assis, lui fit une révérence profonde, puis, autre attitude de solennité, renversa sa tête en arrière et, regardant Gwynplaine en face, lui dit « À vous qui êtes ici présents, nous, Philippe Deuxile-Parson, chevalier, shérif du comté de Surrey, assisté d'Aubry Dominique, écuyer, notre clerc et greffier, et de nos officiers ordinaires, dûment pourvus de commandements directs et spéciaux de Sa Majesté, en vertu de notre commission et des droits et devoirs de notre charge, et avec le congé du Lord Chancelier d'Angleterre, procès-verbaux dressés et actes pris, vu les pièces communiquées par l'amirauté, après vérification des attestations et signatures, après déclarations lues et ouïes, après confrontations faites, toutes les constatations et informations légales étant complétées, épuisées et menées à bonne et juste fin, nous vous signifions et déclarons, afin qu'il en advienne ce que de droit, que vous êtes Fermin Clancharlie, baron Clancharlie et Ankerville, marquis de Corleone en Sicile, pair d'Angleterre, et que Dieu garde votre seigneurie. » Et il salua. Le sergent en droit, le docteur, le justicier quorum, le wapentake, le greffier, tous les assistants, excepté le bourreau, répétèrent ce salut plus profondément encore et s'inclinèrent jusqu'à terre devant Gwynplaine. « Ah, ça !» cria Gwynplaine. « Réveillez-moi !» Et il se dressa debout, tout pâle. « Je viens vous réveiller, en effet, » dit une voix qu'on n'avait pas encore entendue. Un homme sortit de derrière un des piliers. Comme personne n'avait pénétré dans la cave depuis que la lame de fer avait livré passage à l'arrivée du cortège de police, il était visible que cet homme était dans cette ombre avant l'entrée de Gwynplaine, qu'il avait un rôle régulier d'observation et qu'il avait mission et fonction de se tenir là. Cet homme était gros et replet, en perruque de cour et en manteau de voyage, plutôt vieux que jeune et très correct. Il salua Gwynplaine avec respect et aisance, avec l'élégance d'un gentleman domestique et sans gaucherie de magistrat. « Oui, dit-il, je viens vous réveiller. Depuis 25 ans, vous dormez. Vous faites un songe et il faut en sortir. Vous vous croyez Gwynplaine, vous êtes Clancharlie. Vous vous croyez du peuple, vous êtes de la seigneurie. Vous vous croyez au dernier rang, vous êtes au premier. Vous vous croyez histrion, vous êtes sénateur. Vous vous croyez pauvre, vous êtes opulent. Vous vous croyez petit, vous êtes grand. Réveillez-vous, milord !» Gwynplaine, d'une voix très basse, et où il y avait une certaine terreur, murmura « Qu'est-ce que tout cela veut dire ?»«
Cela veut dire, milord, » répondit le gros homme, que je m'appelle Barkilphedro, que je suis officier de l'amirauté, que cette épave, la gourde de Hardquanon, a été trouvée au bord de la mer, qu'elle m'a été apportée pour être décachetée par moi, comme c'est la suggestion et la prérogative de ma charge, que je l'ai ouverte en présence des deux jurés assermentés de l'office Jetson, lesquels sont tous deux membres du Parlement. William Blackwes pour la ville de Bath et Thomas Chervoise pour Southampton, que les deux jurés ont décrit et certifié le contenu de la gourde et signé le procès-verbal d'ouverture, conjointement avec moi. que j'ai fait mon rapport à Sa Majesté, que, par l'ordre de la reine, toutes les formalités légales nécessaires ont été remplies avec la discrétion que commande une si délicate matière, et que la dernière, la confrontation, vient d'avoir lieu. Cela veut dire que vous avez 1 million de rentes. Cela veut dire que vous êtes lord du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne, législateur et juge, juge suprême, législateur souverain, vêtu de la pourpre et de l'hermine, égal au prince, semblable aux empereurs, que vous avez sur la tête la couronne de pair, et que vous allez épouser une duchesse, fille d'un roi. Sous cette transfiguration croulant sur lui à coups de tonnerre, Gwynplaine s'évanouit. Chapitre 2. Ceux qui errent ne se trompent pas. Toute cette aventure était venue d'un soldat qui avait trouvé une bouteille au bord de la mer. Racontons le fait. À tout fait se rattache un engrenage. Un jour, un des 4 canonniers composant la garnison du château de Calshor avait ramassé dans le sable, à marée basse, une gourde d'osier jetée là par le flux. Cette gourde, toute moisie, était bouchée d'un bouchon goudronné. Le soldat avait porté l'épave au colonel du château, et le colonel l'avait transmise à l'amiral d'Angleterre. L'amiral, c'était l'amirauté. Pour les épaves, l'amirauté, c'était Barkilphedro. Barkilphedro avait ouvert et débouché la gourde, et l'avait portée à la reine. La reine avait immédiatement avisé. 2 conseillers considérables avaient été informés et consultés, le lord chancelier, qui est, de par la loi, gardien de la conscience du roi d'Angleterre, et le lord maréchal, qui est juge des armes et de la descente de la noblesse. Thomas Howard, duc de Norfolk, père catholique, qui était héréditairement haut maréchal d'Angleterre, avait fait dire par son député comte maréchal Henry Howard, comte de Bindon, qu'il serait de l'avis du lord chancelier. Quant au lord chancelier, c'était William Cowper. Il ne faut point confondre ce chancelier avec son homonyme et son contemporain William Cowper, l'anatomiste commentateur de Bidloo, qui publiait en Angleterre le traité des muscles, presque au moment où Étienne Abeille publiait en France l'histoire des os. Un chirurgien est distinct d'un lord. Lord William Cowper était célèbre pour avoir, à propos de l'affaire de Talbot Yelverton, vicomte Longueville, émis cette sentence « qu'au respect de la Constitution d'Angleterre, la restauration d'un père importait plus que la restauration d'un roi. » La gourde trouvée à Calshor avait éveillé au plus haut point son attention. L'auteur d'une maxime aime les occasions de l'appliquer. C'était un cas de restauration d'un père. Des recherches avaient été faites. Gwynplaine, ayant écriteau sur rue, était facile à trouver. Hardquanon aussi. Il n'était pas mort. La prison pourrit l'homme, mais le conserve. Si gardé, c'est conservé. Les gens confiés aux Bastilles y étaient rarement dérangés. On ne changeait guère plus de cachot qu'on ne change de cercueil. Hardquanon était encore dans le donjon de Chatham. on n'eut qu'à mettre la main dessus. On le transféra de Chatham, Londres. En même temps, on s'informait en Suisse. Les faits furent reconnus exacts. On leva dans les greffes locaux, VV à Lausanne, l'acte de mariage de Lord Linnaeus en exil, l'acte de naissance de l'enfant, les actes de décès du père et de la mère, et l'on en eut, pour servir ce que de besoin, de doubles expéditions dûment certifiées. Tout cela s'exécuta dans le plus sévère secret, avec ce qu'on appelait alors la promptitude royale, et avec le silence de taupe recommandé et pratiqué par Bacon, et plus tard érigé en loi par Blackstone pour les affaires de chancellerie et d'État et pour les choses qualifiées sénatoriales. Le jussus regis et la signature de Jeffreys furent vérifiés. Pour qui a étudié pathologiquement les cas de caprice dit « bon plaisir », ce jussus regis est tout simple. Pourquoi Jacques II, qui, ce semble, eût dû cacher de tels actes, en laissait-il, au risque même de compromettre la réussite, des traces écrites? Cynisme, indifférence hautaine. Ah, vous croyez qu'il n'y a que les filles d'impudiques? La raison d'État l'est aussi. Et se cupi tante videri. Commettre un crime et s'en blasonner, c'est là toute l'histoire. Le roi se tatoue comme le forçat. On a intérêt à échapper aux gendarmes et à l'histoire. On en serait bien fâché. On tient à être connu et reconnu. Voyez mon bras, remarquez ce dessin. Un temple de l'amour et un cœur enflammé percé d'une flèche. C'est moi qui suis Lacenaire. Je suis Régis. C'est moi qui suis Jacques II. On accomplit une mauvaise action, on met sa marque dessus. Se compléter par l'effronterie, se dénoncer soi-même, faire imperdable son méfait, c'est la bravade insolente du malfaiteur. Christine saisit Maud Alneski, le fait confesser et assassiner, et dit « Je suis reine de Suède, chez le roi de France. » Il y a le tyran qui se cache, comme Tibère, et le tyran qui se vante, comme Philippe II. L'un est plus scorpion, l'autre est plus léopard. Jacques II était de cette dernière variété. Il avait, on le sait, le visage ouvert et gai, différent en cela de Philippe II. Philippe était lugubre, Jacques était jovial. On est tout de même féroce. Jacques II était le tigre bonasse. Il avait, comme Philippe II, la tranquillité de ses forfaits. Il était monstre par la grâce de Dieu. Donc il n'avait rien à dissimuler et à atténuer, et ses assassinats étaient de droit divin. Il eût volontiers, lui aussi, laissé derrière lui ses archives de Simon Casse avec tous ses attentats numérotés, datés, classés, étiquetés et mis en ordre, chacun dans son compartiment, comme les poisons dans l'officine d'un pharmacien. Signer ses crimes, c'est royal. Toute action commise est une traite tirée sur le grand payeur ignoré. Celle-ci venait d'arriver à échéance avec l'endos sinistre jussus regis. La reine Anne, point femme d'un côté, en ce qu'elle excellait à garder un secret, avait demandé sur cette grave affaire au lord chancelier un rapport confidentiel du genre qualifié « rapport à l'oreille royale ». Les rapports de cette sorte ont toujours été usités dans les monarchies. À Vienne, il y avait le conseiller de l'oreille, personnage aulique. C'était une ancienne dignité carlovingienne, l'auricularius des vieilles chartes palatines, celui qui parle bas à l'empereur. William, baron Cowper, chancelier d'Angleterre, que la reine croyait, parce qu'il était myope comme elle et plus qu'elle, avait rédigé un mémoire commençant ainsi. deux oiseaux étaient aux ordres de Salomon, une huppe, la hudbud, qui parlait toutes les langues, et un aigle, le simurganka, qui couvrait d'ombre avec ses ailes une caravane de 20 000 hommes. De même, sous une autre forme, la Providence, etc. Le lord chancelier constatait le fait d'un héritier de Perry enlevé et mutilé, puis retrouvé. Il ne blâmait point Jacques II, père de la reine après tout. Il donnait même des raisons. Premièrement, il y a les anciennes maximes monarchiques, et seignoratu eripimus, in rogurario cadat. Deuxièmement, le droit royal de mutilation existe. Chamberlain l'a constaté. Corpora et bona nostrorum subjectorum nostra sunt, a dit Jacques Ier, de glorieuse et docte mémoire. Il a été crevé les yeux à des ducs de sang royal pour le bien du royaume. Certains princes, trop voisins du trône, ont été utilement étouffés entre deux matelas, ce qui a passé pour apoplexie. Or, étouffé, c'est plus que mutilé. Le roi de Tunis a arraché les yeux à son père, Muléassem, et ses ambassadeurs n'en ont pas moins été reçus par l'empereur. Donc, le roi peut ordonner une suppression de membres comme une suppression d'État, etc. C'est légal, etc. Mais une légalité ne détruit pas l'autre. Si le noyé revient sur l'eau et n'est pas mort, c'est Dieu qui retouche l'action du roi. Si l'héritier se retrouve, que la couronne lui soit rendue. Ainsi il fut fait pour Lord Alla, roi de Northumbre, qui lui aussi avait été bateleur. Ainsi il doit être fait pour Gwynplaine, qui lui aussi est roi, c'est-à-dire Lord. La bassesse du métier, traversé et subi par force majeure, ne ternit point le blason. Témoin, Abdolonim, qui était roi et qui fut jardinier. Témoin, Joseph, qui était saint et qui fut menuisier. Témoin, Apollon, qui était dieu et qui fut berger. Bref, le savant chancelier concluait la réintégration en tous ses biens et dignités de Fermin, Lord Clancharlie, faussement appelé Gwynplaine, à la seule condition qu'il fût confronté avec le malfaiteur Atquanon et reconnu par le dit. Et sur ce, le chancelier, garde constitutionnel de la conscience royale, rassurait cette conscience. Le lord chancelier rappelait en post-scriptum que, au cas où Hardquanon refuserait de répondre, il devrait être appliqué la peine forte et dure, auquel cas, pour atteindre la période dite de foide mortelle voulue par la charte du roi Adelstan, la confrontation devait avoir lieu le 4e jour, ce qui a bien un peu l'inconvénient que, si le patient meurt le 2e ou le 3e jour, la confrontation devient difficile. Mais la loi doit être exécutée. L'inconvénient de la loi fait partie de la loi. Du reste, dans l'esprit du lord chancelier, la reconnaissance de Gwynplaine par Hardquanon ne faisait aucun doute. Anne, suffisamment informée de la difformité de Gwynplaine, ne voulant point faire tort à sa sœur, à laquelle avaient été substitués les biens des Clancharlie, décida avec bonheur que la duchesse Josiane serait épousée par le nouveau lord, c'est-à-dire par Gwynplaine. La réintégration de Lord Fermin Clancharlie était du reste un cas très simple, l'héritier étant légitime et direct. Pour les filiations douteuses ou pour les Perry in abeyance revendiquées par des collatéraux, la chambre des lords doit être consultée. Ainsi, sans remonter plus haut, elle le fut en 1782 par la baronnie de Sydney, réclamée par Elizabeth Perry. en 1798 pour la baronnie de Beaumont, réclamée par Thomas Stapleton. En 1803, par la baronnie de Chandos, réclamée par le révérend Timewell Bridge. En 1813, pour la péricomté de Bunbury, réclamée par le lieutenant-général Knollys, etc. Mais ici, rien de pareil. Aucun litige. Une légitimité évidente. Un droit clair et certain. Il n'y avait point lieu à saisir la chambre. Et la reine, assistée du lord chancelier, suffisait pour reconnaître et admettre le nouveau lord. Barkilphedro mena tout. L'affaire, grâce à lui, resta tellement souterraine, le secret fut si hermétiquement gardé, que ni Josiane, ni lord David n'eurent vent du prodigieux fait qui se creusait sous eux. Josiane, très altière, avait un escarpement qui la rendait aisée à bloquer. Elle s'isolait d'elle-même. Quant à Lord David, on l'envoya en mer sur les côtes de Flandre. Il allait perdre la lordship et ne s'en doutait pas. Notons ici un détail. Il advint qu'à 10 lieues du mouillage de la station navale commandée par Lord David, un capitaine nommé Halliburton força la flotte française. Le comte de Pembroke, président du conseil, porta sur une proposition de promotion de contre-amiraux ce capitaine Halliburton. Anne raya Halliburton et mit Lord David Derrymore à sa place, afin que Lord David eût au moins, lorsqu'il apprendrait qu'il n'était plus pair, la consolation d'être contre-amiral. Anne se sentit contente. Un mari horrible à sa sœur, un beau grade à Lord David, malice et bonté. Sa Majesté allait se donner la comédie. En outre, elle se disait qu'elle réparait un abus de pouvoir de son auguste père, qu'elle restituait un membre à la pairie, qu'elle agissait en grande reine, qu'elle protégeait l'innocence selon la volonté de Dieu. Que la Providence, dans ses saintes et impénétrables voies, etc. C'est bien doux de faire une action juste, qui est désagréable à quelqu'un qu'on n'aime pas. Du reste, savoir que le futur mari de sa sœur était difforme avait suffi à la reine. De quelle façon ce Gwynplaine était-il difforme? Quel genre de laideur était-ce? Barkilphedro n'avait pas tenu à en informer la reine, et Anne n'avait pas daigné s'en enquérir. Profond dédain royal. Qu'importait d'ailleurs? La chambre des lords ne pouvait qu'être reconnaissante. Le lord chancelier, l'oracle, avait parlé. Restaurer un père, c'est restaurer toute la pairie. La royauté, en cette occasion, se montrait bonne et respectueuse gardienne du privilège de la pairie. Quel que fût le visage du nouveau lord, un visage n'est pas une objection contre un droit. Anne se dit plus ou moins tout cela, et alla simplement à son but, à ce grand but féminin et royal, se satisfaire. La reine était alors à Windsor, ce qui mettait une certaine distance entre les intrigues de cour et le public. Les personnes seules d'absolue nécessité furent dans le secret de ce qui allait se passer. Quant à Barkilphedro, il fut joyeux, ce qui ajouta à son visage une expression lugubre. La chose en ce monde qui peut le plus être hideuse, c'est la joie. Il eut cette volupté de déguster le premier la gourde de Hardquanon. Il eut l'air peu surpris, l'étonnement étant d'un petit esprit. D'ailleurs, n'est-ce pas, cela lui était bien dû, à lui, qui depuis si longtemps faisait faction à la porte du hasard. Puisqu'il attendait, il fallait bien que quelque chose arrivât. Ce Neil Mirari faisait partie de sa contenance. Au fond, disons-le, il avait été émerveillé. quelqu'un qui eût pu lui ôter le masque qu'il mettait sur sa conscience, devant Dieu même, eût trouvé ceci. Précisément, en cet instant-là, Barkilphedro commençait à être convaincu qu'il lui serait décidément impossible, à lui, ennemi intime et infime, de faire une fracture à cette haute existence de la duchesse Josiane. De là un accès frénétique d'animosité latente. Il était parvenu à ce paroxysme qu'on appelle le découragement, d'autant plus furieux qu'il désespérait. Ronger son frein, expression tragique et vraie. Un méchant rongeant l'impuissance. Barkilphedro était peut-être au moment de renoncer. Non à vouloir du mal à Josiane, mais à lui en faire. Non à la rage, mais à la morsure. Pourtant, quelle chute lâcher prise! Garder désormais sa haine dans le fourreau comme un poignard de musée? Rude humiliation! Tout à coup, à point nommé, l'immense aventure universelle se plaît à ses coïncidences. La gourde de Hardquanonne vient, de vague en vague, se placer entre ses mains. Il y a dans l'inconnu on ne sait quoi d'apprivoisé qui semble être aux ordres du mal. Barkilphedro, assisté des deux témoins quelconques, jurés indifférents de l'amirauté, débouche la gourde, trouve le parchemin, le déploie, lit. Qu'on se représente cet épanouissement monstrueux. Il est étrange de penser que la mer, le vent, les espaces, les flux et les reflux, les orages, les calmes, les souffles, peuvent se donner beaucoup de peine pour arriver à faire le bonheur d'un méchant. Cette complicité avait duré 15 ans. Œuvre mystérieuse. Pendant ces 15 années, l'océan n'avait pas été une minute sans y travailler. Les flots s'étaient transmis de l'un à l'autre la bouteille surnageante. Les écueils avaient esquivé le choc du verre. Aucune fêlure n'avait lézardé la gourde. Aucun frottement n'avait usé le bouchon. Les algues n'avaient point pourri l'osier. Les coquillages n'avaient point rongé le mot Hardquanonne. L'eau n'avait pas pénétré dans l'épave. La moisissure n'avait pas dissous le parchemin. L'humidité n'avait pas effacé l'écriture. Que de soins l'abîme avait dû se donner! Et de cette façon, ce que Gernardus avait jeté à l'ombre, l'ombre l'avait remise à Barkilphedro, et le message envoyé à Dieu était parvenu au démon. Il y avait eu abus de confiance dans l'immensité, et l'ironie obscure mêlée aux choses s'était arrangée de telle sorte qu'elle avait compliqué ce triomphe loyal. L'enfant perdu Gwynplaine, redevenant Lord Cloncharlie, d'une victoire venimeuse, qu'elle avait fait méchamment une bonne action, et qu'elle avait mis la justice au service de l'iniquité. Retirer sa victime à Jacques II, c'était donner une proie à Barkilphedro. Relever Gwynplaine, c'était livrer Josiane. Barkilphedro réussissait. Et c'était pour cela que pendant tant d'années, les vagues, les lames, les rafales avaient ballotté, secoué, poussé, jeté, tourmenté et respecté cette bulle de verre où il y avait tant d'existences mêlées. C'était pour cela qu'il y avait eu entente cordiale entre les vents, les marées et les tempêtes. La vaste agitation du prodige complaisante pour un misérable, l'infini collaborateur d'un ver de terre. La destinée a de ses volontés sombres. Barkilphedro eut un éclair d'orgueil titanique. Il se dit que tout cela avait été exécuté à son intention. Il se sentit centre et but. Il se trompait. Réhabilitons le hasard. Ce n'était point là le vrai sens du fait remarquable dont profitait la haine de Barkilphedro. l'océan se faisant père et mère d'un orphelin, envoyant la tourmente à ses bourreaux, brisant la barque qui a repoussé l'enfant, engloutissant les mains jointes des naufragés, refusant toutes leurs supplications et n'acceptant d'eux que leur repentir, la tempête recevant un dépôt des mains de la mort, le robuste navire où était le forfait remplacé par la fiole fragique où est la réparation, la mère changeant de rôle comme une panthère qui se ferait nourrice et se mettant à bercer, non l'enfant, mais sa destinée, pendant qu'il grandit, ignorant de tout ce que le gouffre fait pour lui. Les vagues, à qui a été jetée la gourde, veillant sur ce passé dans lequel il y a un avenir, l'ouragan soufflant dessus avec bonté, les courants dirigeant la frêle épave à travers l'insondable itinéraire de l'eau, les ménagements des algues, des houles, des rochers, toute la vaste écume de l'abîme prenant sous sa protection un innocent, l'onde imperturbable comme une conscience, le chaos rétablissant l'ordre, le monde des ténèbres aboutissant à une clarté, toute l'ombre employée à cette sortie d'astre, la vérité, le proscrit consolé dans sa tombe, l'héritier rendu à l'héritage, le crime du roi cassé, la préméditation divine obéie, le petit, le faible, l'abandonné, ayant l'infini pour tuteur. Voilà ce que Barkilphedro eût pu voir dans l'événement dont il triomphait. Voilà ce qu'il ne vit pas. Il ne se dit point que tout avait été fait pour Gwynplaine. Il se dit que tout avait été fait pour Barkilphedro et qu'il en valait la peine. Tels sont les Satans. Du reste, pour s'étonner qu'une épave fragile ait pu nager 15 ans sans être avariée, il faudrait peu connaître la profonde douceur de l'océan. 15 ans, ce n'est rien. Le 4 octobre 1867, dans le Morbihan, entre l'île de Croix, la pointe de la presqu'île de Gavre et le rocher des Errants, des pêcheurs de Port-Louis ont trouvé une amphore romaine du IVe siècle, couverte d'arabesques par les incrustations de la mer. Cette amphore avait flotté 1500 ans. Quelque apparence flegmatique que voulut garder Barkilphedro, sa stupéfaction avait égalé sa joie. Tout s'offrait, tout était comme préparé. Les tronçons de l'aventure qui allaient satisfaire sa haine étaient d'avance épars à sa portée. Il n'y avait qu'à les rapprocher et à faire les soudures. Ajustage amusant à exécuter. Ciselure. Gwynplaine, il connaissait ce nom. Mascaridens. Comme tout le monde, il avait été voir l'homme qui rit. Il avait lu l'enseigne écriteau accrochée à l'Inn Tedcaster, ainsi qu'on lit une affiche de spectacle qui attire la foule. Il l'avait remarqué. Il se la rappela sur le champ dans les moindres détails, quitte d'ailleurs à vérifier ensuite. Cette affiche, dans l'évocation électrique qui se fit en lui, reparut devant son œil profond et vint se placer à côté du parchemin des naufragés, comme la réponse à côté de la question, comme le mot à côté de l'énigme. Et ces lignes ? Ici, l'on voit Gwynplaine abandonné à l'âge de 10 ans, la nuit du 29 janvier 1690, au bord de la mer, à Portland. Prire brusquement sous son regard un resplendissement d'apocalypse. Il eut cette vision, le flamboiement de main teysel phares sur un boniment de la foire. C'en était fait de tout cet échafaudage qui était l'existence de Josiane. Écroulement subi. L'enfant perdu était retrouvé. Il y avait un Lord Clancharlie. David Derrymore était vidé. La pairie, la richesse, la puissance, le rang, tout cela sortait de Lord David et entrait dans Gwynplaine. Tout Château, chasse, forêt, hôtel, palais, domaine, y compris Josiane, était Gwynplaine. Et Josiane, quelle solution! Qui maintenant avait-elle devant elle? Illustre et hautaine, un histrion. Belle et précieuse, un monstre. Eût-on jamais espéré cela? La vérité est que Barkilphedro était dans l'enthousiasme. Toutes les combinaisons les plus haineuses peuvent être dépassées par la munificence infernale de l'imprévu. Quand la réalité veut, elle fait des chefs-d'œuvre. Barkilphedro trouvait bête tous ses rêves. Il avait mieux. Le changement qui allait se faire par lui, se fût-il fait contre lui, il ne l'eût pas moins voulu. Il existe de féroces insectes désintéressés qui piquent, sachant qu'ils mourront de la piqûre. Barkilphedro était cette vermine-là. Mais cette fois, il n'avait pas le mérite du désintéressement. Lord David de Rimor ne lui devait rien, et Lord Fermain Clancharlie allait lui devoir tout. De protégé, Barkilphedro allait devenir protecteur. Et protecteur de qui? D'un pair d'Angleterre. Il aurait un lord à lui, un lord qui serait sa créature. Le premier pli, Barkilphedro comptait bien le lui donner. Et ce lord serait le beau-frère morganatique de la reine. Et tant s'il est, il plairait à la reine de toute la quantité dont il déplairait à Josiane. Poussé par cette faveur, et en mettant des avis... Poussé par cette faveur, et en mettant des habits graves et modestes, Barkilphedro pouvait devenir un personnage. Il s'était toujours destiné à l'Église, il avait une vague envie d'être évêque. En attendant, il était heureux. Quel beau succès! Et comme toute cette quantité de besogne du hasard était bien faite, sa vengeance, car il appelait cela sa vengeance, lui était mollement apportée par le flot. Il n'avait pas même été vainement embusqué. L'écueil, c'était lui. L'épave, c'était Josiane. Josiane venait s'échouer sur Barkilphedro. Profonde extase scélérate. Il était habile à cet art qu'on appelle la suggestion, et qui consiste à faire dans l'esprit des autres une petite incision où l'on met une idée à soi. Tout en se tenant à l'écart, et sans avoir l'air de s'en mêler, il s'arrangea de façon à ce que Josiane allât à la baraque Gwynbox et vit Gwynplaine. Cela ne pouvait pas nuire. Le saltimbanque, vu en sa bassesse, bon ingrédient dans la combinaison. Plus tard, cela assaisonnerait. Il avait silencieusement tout apprêté d'avance. Ce qu'il voulait, c'était on ne sait quoi de soudain. Le travail qu'il avait exécuté ne pourrait être exprimé que par ces mots étranges « construire un coup de foudre ». Les préliminaires achevés, il avait veillé à ce que toutes les formalités voulues fussent accomplies dans les formes légales. Le secret n'en avait point souffert, le silence faisant partie de la loi. La confrontation de Hardquanonne avec Gwynplaine avait eu lieu. Barkilphedro y avait assisté. On vient d'en voir le résultat. Le même jour, un carrosse de poste de la reine vint brusquement, de la part de Sa Majesté, chercher Lady Josiane à Londres pour la conduire à Windsor, où Anne, en ce moment, passait la saison. Josiane, pour quelque chose qu'elle avait dans l'esprit, eût bien souhaité désobéir, ou du moins retarder d'un jour son obéissance et remettre ce départ au lendemain. Mais la vie de cour ne comporte point ces résistances-là. Elle dut se mettre immédiatement en route et abandonner sa résidence de Londres, Unkerville House pour sa résidence de Windsor, Corleone Lodge. La duchesse Josiane avait quitté Londres au moment même où le Wapentake se présentait à Lynn Tedcaster pour enlever Gwynplaine et le mener à la cave pénale de Southwark. Quand elle arriva à Windsor, l'huissier de la Verge Noire, qui garde la porte de la chambre de présence, l'informa que Sa Majesté était enfermée avec le Lord Chancelier et ne pourrait la recevoir que le lendemain, qu'elle eut en conséquence à se tenir, à Corleone Lodge, à la disposition de Sa Majesté, et que Sa Majesté lui enverrait directement ses ordres le lendemain matin à son réveil. Josiane rentra chez elle fort dépitée, soupa de mauvaise humeur, eut la migraine, congédia tout le monde, son mousse excepté, puis le congédia lui-même, et se coucha qu'il faisait encore jour. En arrivant, elle avait appris que, ce même lendemain, Lord David Derrymore, ayant reçu en mer l'ordre de venir immédiatement prendre les ordres de la reine, était attendu à Windsor.